France Inter, le 7-9.
Il est 7h49, Alexandra Ben Saïd. Votre invité ce matin est ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, chargée des collectivités territoriales.
Les collectivités territoriales, les maires, les régions, les départements. Bonjour Sébastien Lecornu.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
D'abord un point sur les intempéries dans ces territoires, justement. On a des personnes privées, un millier de personnes privées d'électricité en Haute-Loire. On a des naufragés de la route. Est-ce que l'État est suffisamment mobilisé?
L'État et les collectivités territoriales, d'ailleurs, parce que les conseils départementaux ont un rôle majeur à jouer sur les alertes neige. C'est toujours évidemment délicat de dire que ça a bien fonctionné lorsque des centaines de personnes ont pu connaître une nuit difficile, mais vous voyez que le système d'hébergement d'urgence a bien fonctionné. Beaucoup de places avaient été ouvertes en amont. Les systèmes d'alerte entre Météo France et les collectivités territoriales et les services de l'État en région ont bien fonctionné aussi. Après, on le sait très très bien, les premiers jours, les premières heures de ces intempéries à chaque hiver méritent toujours le même rodage. Voilà, mais une fois plus, message de compassion et d'accompagnement avec nos concitoyens qui ont connu des heures difficiles cette nuit et tôt ce matin.
Sébastien Lecornu, dans le précédent gouvernement, vous étiez en charge de la transition écologique. Là, vous voici en charge du réchauffement climatique avec ses maires, ses présidents de région, ses présidents de département.
La bas carbone, alors.
Vous n'aviez pas la bonne méthode.
Je crois déjà, vous savez, j'étais maire, j'étais président de conseil départemental et au fond, je m'attelle là en tant que ministre à ne jamais perdre ça de vue et dans mon cœur et dans mon esprit en tout cas, c'est comme cela que je m'adresse à mes collègues. On a toute une génération d'élus qui est en convalescence encore de grandes réformes, l'intercommunalité obligatoire en 2010, la loi NOTRe sous le gouvernement précédent, la baisse des dotations de l'État de manière autoritaire d'année en année. Donc c'est vrai qu'il y a toute une génération d'élus, là, élus en 2014 ou en 2015, qui globalement parfois trouve un peu que la coupe est pleine.
Donc ça n'est pas de votre faute. Ça n'est pas de la faute depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron.
Il faut que chacun prenne sa part et je crois que le président de la République là-dessus justement veut ce reset, comme on dit si bien, un temps zéro avec les associations d'élus.
Reset sur les montres. On repart de zéro.
On repart de zéro, mais je crois que c'est fait avec pragmatisme dans la mesure où tout le monde a besoin de tout le monde. C'est que les collectivités territoriales ont besoin de l'État pour accomplir leur mission de service public et mais l'État et nous-mêmes au gouvernement, on a besoin des collectivités territoriales et des élus pour réussir les grandes transformations du pays. Donc là aussi, ce que l'on doit au fond, c'est un bon service public et un bon service rendu à nos concitoyens et c'est une transformation réussie du pays.
Mais
et pour cela, penser que chacun dans son coin peut y arriver est bien évidemment une impasse ou un échec alors qu'il faut que tout le monde se rassemble. En tout cas, moi depuis plus de 15 jours maintenant, avec Jacqueline Gourou, je viens de Normandie, c'est ce que je dis à mes collègues qui représentent les élus à travers les différentes associations ou directement sur le terrain et je crois que ce message est entendu.
Vous parce leur dites, on a besoin de vous nous aussi, mais vous voulez leur faire de la calinothérapie ou
bien
vous
allez c'est du concret.
Faire des propositions précises.
Quand vous êtes élu, vous souhaitez faire avancer votre territoire, vous souhaitez monter des projets, vous souhaitez trouver des financements pour boucler justement ces projets. J'entendais la chronique à l'instant. Vous voyez, demain, dans le projet de loi de finances, c'est 200 millions d'euros de subventions qui sont pris sur mon budget uniquement pour des critères écologiques, pour les projets écologiques qui sont menés par les territoires.
On va en parler.
Tout ça, c'est du concret. Et je crois vraiment qu'une fois de plus, La querelle ou la guéguerre potentielle entre l'État d'un côté et les collectivités territoriales de l'autre serait jugée dans les deux cas et dans les deux sens avec beaucoup de sévérité par nos concitoyens ne réclament qu'une seule chose, c'est des résultats et du résultat.
Alors du résultat justement, les départements, c'est eux qui assument la plus grande part des aides sociales. Ils se plaignent, c'est trop lourd, ça n'est pas assez compensé. Allez-vous faire un geste?
Oui. La réponse est oui. On a deux grands chantiers sur le volet social avec les conseils départementaux. J'ai présidé le département de l'Eure, ces questions me sont connues. C'est évidemment
question...
Oui, toutes les aides sociales individuelles, RSA étant bien évidemment le flux financier le plus difficilement absorbable par les conseils départementaux. Il y a toute la question des mineurs non accompagnés, qui là aussi représentent des flux importants avec des augmentations sensibles. Actuellement, on a un groupe de travail entre l'Assemblée des départements de France et mon cabinet, celui de Jacqueline Gourou, qui est en train de travailler à des propositions.
C'est 37 milliards.
En vue du congrès de Rennes. Oui, tout ça est aussi beaucoup plus compliqué puisqu'il y a des missions historiques que les conseils départementaux veulent garder et c'est bien naturel. Puis ensuite, il n'y a pas que les questions financières. Il y a aussi les questions de gouvernance. Je vous parlais de la loi NOTRe tout à l'heure. Il y a plein d'irritants liés à l'application de cette loi NOTRe qui crée des difficultés. Exactement. Et qui crée beaucoup de difficultés dans les territoires où les conseils départementaux pouvaient parfois avoir des mesures d'accompagnement pour les agriculteurs, pour les mairies, pour les commerçants. Puis du jour au lendemain, on leur a dit de manière autoritaire stop, c'est fini. Et puis d'autres collectivités ne se sont pas forcément substituées aux conseils départementaux pour le faire. Donc là, j'ai demandé au préfet de nous faire remonter département par département ces irritants de la loi NOTRe qui parlent à tous les élus locaux. Là, les 600 000 élus locaux à qui je m'adresse ce matin à travers vous, ils voient très très bien de quoi je veux parler. Et donc là aussi, ce sont véritablement avec pragmatisme des pistes d'évolution sur lesquelles on doit désormais avancer vite.
Un geste sur les aides sociales pour les départements. D'ici au congrès de Rennes, ça sera le 7 novembre.
Oui, je ne fais pas d'annonce ce matin parce que je veux carréner bien évidemment des choses qui soient logiques dans le temps. Il y en a marre aussi de faire des choses par à-coup.
Est-ce que ce sont les départements les plus riches qui vont financer les plus pauvres ?
Vous savez, année par année, moi je ne fais plus quand je préside le département de l'Eure. En fin d'année, on se posait des questions sur comment boucler son budget et puis on se reposait les mêmes questions l'année qui suivait. Là, une bonne fois pour toutes, notamment en lien avec Agnès Buzyn et son plan pauvreté, sur toutes ces questions d'accompagnement de l'enfance en danger ou évidemment des personnes en situation d'exclusion, il faut qu'on ait un chemin qui nous permette à la fois de garantir le financement de notre modèle social, qui ne mette pas les conseils départementaux en difficulté, mais aussi, là encore, des résultats concrets sur nos politiques d'insertion d'accompagnement de la pauvreté.
La taxe d'habitation, une grande question. Oui. Les maires se sentent dépossédés d'un outil fiscal, les citoyens se demandent si vous n'allez pas reprendre d'une main ce que vous avez donné de l'autre. C'est très flou. C'est plus de 20 milliards.
On ne peut plus clair. La taxe d'habitation est intégralement dégrévée, c'est-à-dire compensée par l'État aux collectivités territoriales. Jusqu'en 2020, c'est la diminution de cette taxe d'habitation pour 80% des Français, puis ensuite 100% des Français. Là, il y a un premier tiers justement qui vient d'être diminué. Mais je parle directement aux élus puisque je suis ministre des élus. Je leur dis pour leurs recettes communale, la part de la taxe d'habitation est intégralement à l'euro près compensée pour maintenant et pour les années qui viennent.
Est-ce qu'ensuite on leur donnera une part de la taxe foncière que reçoivent les départements? Est-ce qu'on va déshabiller Pierre pour habiller
Paul? Autre beau chantier sur lequel tout le monde recule depuis des années, mais il est temps de s'y mettre, c'est évidemment tout le chantier de la fiscalité locale. Pourquoi c'est la taxe d'habitation qu'on cherche à supprimer? Parce que c'est un impôt qui devenait fondamentalement injuste, parfois d'une rue à l'autre. Je le voyais chez moi à Vernon, on était incapable de justifier les modes de calcul sur les bases de valeurs locatives, etc.
Est-ce que cette piste est possible?
Donc, au premier semestre de l'année prochaine, entre janvier et mai, avec les associations d'élus, avec le comité des finances locales, avec les commissions des finances des deux assemblées, Sénat et Assemblée nationale, on va complètement réformer, remettre à plat la fiscalité locale, sans créer d'impôts supplémentaires, je le dis là aussi, puisque j'entends parfois des choses qui me hérissent, mais là aussi, on a besoin de remettre de la clarté. Quand vous regardez votre feuille d'impôt aujourd'hui...
Le chantier est ouvert.
Oui, complètement ouvert, c'est un beau chantier de transformation. Là, pour le coup, on fait aussi du macronisme véritablement dans le texte, parce que voilà des sujets sur lesquels personne ne s'est précipité sur ces questions depuis des années. C'est des sujets qui peuvent être un tout petit peu compliqués, mais on avance.
La grogne sur les carburants, dans les territoires en particulier, Thomas Legrand en parlait, ça vous inquiète ?
Il faut entendre l'inquiétude telle qu'elle est, elle est formulée, mais il faut aussi expliquer ce qui se passe, parce que sinon on se laisse aller à de la démagogie ou à un nouveau poujadisme. Quand vous avez 75% de l'augmentation du carburant qui tient et qui est en lien direct avec la situation géopolitique au Moyen-Orient, fondamentalement ça prouve bien que le tout pétrole est une impasse et qu'il faut tourner la page de ce tout pétrole. Donc ces hydrocarbures, non seulement ça crée des problèmes de souveraineté, moi qui viens du gaullisme, fondamentalement ça m'interpelle, c'est la question aussi de notre indépendance énergétique, et je pense que c'est bien qu'on se pose la question. Et en plus, c'est mauvais pour la planète.
Mais il y a aussi
mauvais pour notre indépendance, mauvais pour la planète et mauvais pour le porte-monnaie. Et puis effectivement, il y a une part de ce carbone auquel on donne un coût, on donne un prix, parce que fondamentalement, il faut donner un coût à cette pollution. Et ce coût-là, les 25% d'augmentation qui restent, ça sert à payer les primes de conversion pour changer de voiture.
100%, est-ce que 100% de la fiscalité verte va à la transition écologique, à l'isolation des bâtiments, au transport public?
Beaucoup disent que non, parce qu'ils regardent les logiques avec beaucoup d'affectation à l'euro près. Moi, si je les regarde au global, je pense que largement le compte y est. Je vous le redis, 200 millions d'euros sur ma dotation de soutien aux investissements locaux, personne ne vous en parle, personne ne vient vous en parler, c'est pas grand public, mais c'est de l'argent direct pour les collectivités locales, pour faire de l'isolation de bâtiments. Voilà, pour répondre très directement à la chronique de Thomas Legrand.
Dernière question sur la réforme de l'État. Dans cette réforme, il y a l'extension du recrutement des fonctionnaires au contrat. Marie-Lise Lebranchu, ancienne ministre, elle dit « faut être franc, vous ouvrez la porte au privé ».
Non, mais ça, ce sont vraiment... Vous voyez ce qui ne fonctionne plus dans ce pays et ce qui fait que malheureusement, on a des blocages et un pays qui a du mal à se réformer, c'est avec ce genre de propos. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Marie-Lise Lebranchu, mais très franchement, on est sur un slogan et une amalgame. Les contrats, par définition, ce sont aussi des outils de protection. Beaucoup de Français qui nous écoutent sont sur contrat de droit privé, contrat de droit public. Ils n'ont pas moins de protection que le statut. En revanche, le contrat permet une organisation plus efficiente du service public. C'est un outil qui est bien sûr plus pilotable, mais qui ne se fait pas au détriment de l'agent public. Donc là aussi, moins de slogans et plus de pragmatisme, ça nous aidera tous à avancer.
Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales.
Merci
bien.
À vous. On a le temps de redonner son titre, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales. Merci, le journal de 8h va partir à l'heure.